Et pour commencer l'émission, on se penche sur les résultats d'une étude réalisée l'automne dernier portant sur l'accessibilité des commerces à Mont-Tremblant. Pour dresser ce portrait de l'accessibilité, je joins au téléphone Mme Karine Cloutier de l'Association de personnes handicapées Clair Soleil. Bonjour Mme Cloutier.
Oui, bonjour.
Tout d'abord, pouvez-vous nous présenter brièvement l'Association Clair Soleil?
Oui, l'Association Clair Soleil, c'est un organisme communautaire autonome qui est situé à Mont-Tremblant, donc qui œuvre auprès des personnes handicapées physiques et intellectuelles de la MRC des Laurentides. Puis, sa mission est de promouvoir et défendre les droits et les intérêts des personnes handicapées. Puis, on offre aussi un centre de jour, des activités et un camp de jour adapté pour les enfants.
Et donc, on parle d'une enquête qui a eu lieu à l'automne 2015.
Oui, exactement.
Quelle a été la motivation ou le coup d'envoi pour mener l'étude?
Bien, en fait, on voulait voir vraiment sur notre territoire qui est très commercial aussi, très touristique, mm-hmm. Combien de pourcentage avait sur l'accessibilité des commerces. Donc, on a vérifié les trois secteurs d'activité commerciale du territoire de la ville de Mont-Tremblant. Donc, le secteur Saint-Jovite, le village de Mont-Tremblant et la station Tremblant, la station de ski bien connue, bien mm-hmm. entendu. Oui.
Et donc, est-ce que l'enquête portait uniquement sur les commerces ou aussi, en général, ça pouvait inclure d'autres établissements touristiques?
Le rapport a vraiment été établi sur les commerces. Par contre, durant l'enquête, on est allé vérifier certains bâtiments, tels les bureaux de poste ou les bâtiments publics, pour s'assurer que tout était conforme.
Et combien de commerces ont été évalués?
On a évalué 362 commerces sur les trois territoires. Donc oui, c'est une belle étude.
Bien, c'est un chiffre qui est assez impressionnant.
Oui.
Quels étaient les critères, premièrement, pour considérer qu'un commerce était accessible?
Donc d'abord, il y avait le stationnement adapté qui devait être bien identifié et situé près de l'entrée. Bien entendu, un parcours sans obstacle, donc du stationnement jusqu'à la porte, soit avec l'absence de marche ou une rampe d'accès. L'entrée qui devait être assez large et adéquate avec le seuil de porte, bien entendu. Adéquat pour entrer à l'intérieur. Puis la salle de toilette qui devait être adaptée, assez grande, puis posséder des barres d'appui. Donc, il y avait des facilitateurs aussi qui donnaient encore plus de points, si on peut dire. La partie de réception de billetterie d'accueil était abaissée, mm-hmm. ou s'il y avait une porte automatique, par exemple, donc...
Est-ce qu'il y a certains secteurs qui ont obtenu des meilleurs résultats que d'autres ou c'est plutôt semblable?
Somme toute, c'est assez semblable. Par contre, la station Mont-Tremblant démontrait un peu plus de commerce adapté. Et le village de Mont-Tremblant arrivait en dernier là, avec seulement 14 % de ses commerces qui étaient adaptés. Donc, c'est pas...
qui sont accessibles. Et sinon,
oui.
On parle d'une moyenne d'environ 34 %, je pense.
Oui, exactement, sur le total global de l'accessibilité des trois secteurs, c'est ça.
Et qu'est-ce qui explique ce faible résultat?
Moi, les réponses qu'on me donnait, c'était par rapport à l'ancienneté des bâtiments. Donc, on a beaucoup de bâtiments qui sont... difficilement adaptables parce que ça fait plus de 100 ans qu'ils sont mm-hmm. là. Donc, les critères, les lois les protègent. Par contre, aussi, j'ai senti les propriétaires n'étaient pas prêts à investir. Je parle des propriétaires des bâtiments. Par contre, les commerçants qui sont en location la plupart du temps souhaiteraient que ça soit autrement, mais ont peut-être de la difficulté là, à investir monétairement dans des rénovations, exactement.
Exact. Donc, on se renvoie un peu la balle.
Oui, exactement, malheureusement.
À ce moment-là. Et justement, mis à part peut-être l'ancienneté des bâtiments ou être frileux sur l'investissement que des rénovations pourraient amener, est-ce qu'il y a d'autres raisons aussi qui ont été évoquées sur le manque d'accessibilité?
C'est pas mal ça. C'est sûr que c'est vraiment le côté
vraiment
monétaire. Oui, exactement.
Donc, on y revient toujours à la question souvent du financement. Donc, c'est pas, on fait pas face nécessairement à des préjugés ou au fait qu'on ne perçoit pas les personnes handicapées comme des touristes ou des consommateurs potentiels. C'est vraiment plus...
Oui, c'est côté financier. J'ai senti vraiment une belle sensibilité de tous les commerçants qui me disaient d'accueillir certaines personnes vivant des formes d'handicap. Mais je pense que la connaissance de ce que ça prend pour entrer à l'intérieur d'un commerce puis circuler convenablement était méconnue un petit peu. Certaines personnes disaient que oui, la personne peut entrer avec de l'aide, mais de façon autonome, c'était pas possible. Ou par exemple avec un fauteuil motorisé, c'était pas possible non plus parce que le seuil était vraiment trop haut. Donc, c'est pas toujours adapté convenablement.
Non, c'est ça. Il y a une certaine éducation encore à faire. Avez-vous quand même trouvé des exemples intéressants
Oui, mais en premier, les commerces avec bannières étaient vraiment bien adaptés. Je crois qu'ils ont des normes à suivre là, par rapport à ça. Puis c'est ce qui a fait vraiment pencher la balance. Côté des commerces indépendants, on a offert la palme d'or, argent et bronze, donc à quelques commerçants. Centre de santé dentaire Mont-Tremblant, restaurant Le Vieux Four et restaurant La Lorraine. Donc, puis on a eu des coups de cœur aussi parce que c'est des commerces vraiment qui ont adapté leur lieu sans avoir d'exigence telle. C'était vraiment de cœur pour accueillir la clientèle comme il se doit. Ouais.
Donc, il y a aussi certains qui sont proactifs.
Exactement.
Dans votre rapport, il y a aussi, vous soumettez des pistes de solutions, des outils, notamment l'élaboration d'une politique, d'un plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées, une publication d'un guide pratique d'accessibilité universelle, et vous incluez aussi des exemples de plans d'action de villes avoisinantes comme Blainville, Sainte-Thérèse, Saint-Jérôme, plusieurs autres. Est-ce que pour vous, ce sont des exemples à suivre, les plans d'action de ces villes-là?
Oui, exactement, parce que il y a plein de détails qui peuvent vraiment changer la vie des personnes handicapées, tels que le déneigement des trottoirs, des édifices, une aide financière aussi qui est apportée aux commerçants qui veulent adapter leur commerce. Donc, ça les motive, c'est une motivation supplémentaire pour accessibiliser leur commerce. Puis, c'est ça.
Puis, maintenant que vous avez remis votre part à la ville de Mont-Tremblant, qu'est-ce que vous espérez comme action de la part des élus?
Nous aimerions avoir dans la ville de Mont-Tremblant un plan d'action sur l'accessibilité universelle, autant pour les résidents que pour le touriste, parce que c'est une plateforme touristique importante, donc pour agrandir
le bassin.
Oui, exactement.
Le bassin potentiel de gens.
Puis finalement, comme je disais tout à l'heure, le programme d'aide financière aux commerçants qui serait une motivation supplémentaire pour aménager correctement les commerces. Oui.
Et en terminant, Mme Cloutier, si on veut prendre connaissance des résultats de ce rapport sur l'accessibilité des commerces à Mont-Tremblant, est-ce qu'il est disponible quelque part en ligne où on peut peut-être en faire la demande?
Oui, exactement. Sur le profil Facebook de Claire Soleil, vous avez les informations. Puis sur notre site Internet, qui est le www.claire-soleil.webnode.fr. Donc, à cette adresse-là, les informations sont disponibles.
Et donc, j'invite nos auditeurs à pouvoir le consulter. Plusieurs statistiques intéressantes. Merci beaucoup, Karine Cloutier, de l'organisme de l'Association de personnes handicapées Claire Soleil. Merci d'avoir mené cette étude dans le village touristique de Mont-Tremblant.
Merci à vous. Merci.